ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Hélène Maradio, bonjour. Vous écoutez Couleurs du Monde, votre émission mensuelle qui arrive au beau jour et donc qui va être consacrée à un sujet étonnant, c'est le transhumanisme. Je suis avec mes compères Emma, bonjour Emma.
Bonjour à toutes et tous.
Et Jean-François.
Bonjour.
Alors, le transhumanisme, c'est quoi ? Ben déjà, c'était un sujet qui me trottait dans la tête depuis 4 ans. J'ai mis ça dans un coin depuis 4 ans et je ruminais ça depuis 4 ans. C'est un mouvement qui est beaucoup centré sur les États-Unis, même s'il est assez international, de personnes qui veulent que les êtres humains aillent au-delà de la stricte condition humaine. Alors, si tout ça vous paraît mystérieux, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça. Dans une première partie, c'est Jean-François qui va nous présenter l'origine et les buts du mouvement transhumaniste. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous parlerai du fait que le transhumanisme est l'héritage de plusieurs imaginaires. Dans une troisième partie, Emma nous parlera du fait que le transhumanisme a partie liée avec un mouvement politique qu'on connaît de plus en plus aujourd'hui, le libertarisme.
Malheureusement.
Ouais, tout à fait. Et enfin, dans une dernière partie, on continuera sur la partie 3 en disant que en fait, le transhumanisme aujourd'hui il fait quelque part cause commune avec l'idéologie du gouvernement Trump actuel. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames, on y va ?
Ça me paraît bien carré, ouais.
Okay. Ouais. Allez, auditeurs, quelle est la radio ? C'est parti pour le transhumanisme. Jean-François, c'est à toi ?
Allez, c'est parti. Alors, on peut commencer par dire que depuis toujours, vraiment, l'humanité rêve de repousser ses limites.
Ouais.
Voler comme les oiseaux, par exemple, hein, guérir les maladies, vaincre la vieillesse, comprendre l'univers. Ces rêves sont au cœur des grandes épopées, des religions, de la science, et aujourd'hui, d'un courant de pensée aussi fascinant qu'inquiétant, donc le transhumanisme. Mais qu'est-ce que le transhumanisme exactement ? C'est l'idée profondément contemporaine selon laquelle l'être humain peut et doit s'améliorer indéfiniment à l'aide des technologies. Il ne s'agit plus seulement de réparer ce qui est cassé, mais d'augmenter l'humain, de le rendre
Allez,
plus fort, plus intelligent, plus durable, voire immortel même. À terme, c'est l'apparition d'un post-humain que les transhumanistes appellent de leur vœu. Alors derrière cette ambition se pose une question aussi vieille que Prométhée. Voulons-nous, pouvons-nous devenir les maîtres de nos propres évolutions ? Le transhumanisme, est-ce une nouvelle renaissance ou une forme d'hubris, ce péché de démesure ?
Hubris, terme grec, la démesure.
Tout à fait. L'orgueil poussé à l'extrême.
Ah, oui.
Souvent, ça se retourne contre les personnages, dans les tragédies en tout cas.
Certains y voient quand même l'aboutissement d'un projet humaniste hérité des Lumières. D'autres, on en reparlera, d'autres une dérive individualiste et néolibérale.
Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est l'héritage de l'humanisme ou est-ce que c'est une dérive ? On reverra tout ça.
Ou alors, est-ce que c'est le progrès technologique qui prime sur la justice sociale, voire sur la sagesse ? Alors, pour tenter de répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est le transhumanisme dans sa complexité. Et le livre de Stanislas Desprez sur le transhumanisme va nous aider dans cette tâche en dégageant trois axes. D'abord, le transhumanisme qui constitue, d'après lui, un mouvement, mais aussi une doctrine, et enfin, un imaginaire.
D'accord. Okay.
Alors, le transhumanisme, ne s'est pas développé dans les laboratoires, mais dans les revues, les forums, les conférences. C'est donc d'abord un mouvement militant, structuré dès les années 90 autour de figures emblématiques.
On est sur les 30 dernières années quand même.
Ouais,
on est sur, j'aurais pas dire, My Generation, quoi, quelque part.
Alors, parmi ces grandes figures, il y a Max Mohr.
C'est un pseudo.
C'est un pseudo, puisqu'il s'appelle en fait, il est né Max O'Connor. Et il fonde la revue Extropie Magazine, puis l'Extropie Institute. Et il revendique une philosophie de l'extropie, donc conçue comme l'opposé de l'entropie.
Voilà,
l'extropie l'a inventé, ce terme,
comme contraire de l'entropie.
Voilà, c'est là où l'univers tend vers le désordre. L'extropie incarne l'élan vers l'organisation, l'amélioration, le dépassement. Il s'agit en fait de se libérer de toutes nos limites physiques, biologiques, culturelles et d'accroître sans cesse notre intelligence, notre durée de vie, notre efficacité. Le cadre illogique de Max Moore est profondément libertarien.
Ouais, on aura l'occasion d'en reparler.
Il est vraiment dans la lignée d'Ayn Rand, par exemple. Il défend un individualisme radical. L'individu est souverain et l'État ou la société ne doivent pas interférer dans ses choix. C'est un transhumanisme libéral et élitiste également, presque darwinien.
Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler.
Seuls ceux qui peuvent s'améliorer, s'augmenter, survivront. Ouais, c'est ça. Mais d'autres acteurs vont proposer une version plus modérée. En 98, par exemple, les philosophes Nick Bostrom et David Pierce créent le World Transhumanist Association. Ils partagent l'enthousiasme pour les technologies, mais refusent l'idéologie libertarienne.
C'est transhumaniste sociodémocrate, on pourrait dire.
C'est un peu ça, ouais.
C'est le juste milieu.
Ouais, leur objectif, c'est de sortir le transhumanisme de sa marginalité, en l'ancrant dans une pensée plus large, plus responsable. Ensuite, on a James Hughes, qui devient président de l'association en 2004, et il défend, lui, le transhumanisme techno-progressiste.
Alors, donc, c'est-à-dire
oui à la liberté individuelle, mais encadré par des institutions démocratiques.
Ah, lui aussi, il est plutôt modéré.
Voilà, l'innovation, selon lui, ne doit pas creuser les inégalités, mais améliorer la vie du plus grand nombre.
Mais sinon, techno-progressiste, le progrès par la technologie.
Tout à fait. Ouais. Mais là, l'idée, c'est que, précisément, c'est pas réservé à une élite dans son
dans sa vision à lui, tout à fait. Est-ce que c'est la vision la plus répandue aux États-Unis chez les transhumanistes?
Suspense.
Non, on reparlera.
Ensuite, on a Nick Bostrom qui va aller plus loin encore en 2005, parce qu'il fonde le Future of Humanity Institute à l'université d'Oxford. Alors, ce centre de recherche interdisciplinaire étudie les risques existentiels, ce qui pourrait anéantir l'humanité, comme une pandémie par exemple, une guerre nucléaire ou une IA hors de contrôle.
Ça, c'est intéressant, c'est des travaux qui donc ont surgi du transhumanisme, l'idée de dire voilà, c'est quoi les menaces qui pèsent sur l'humanité en quelque sorte, sur la survie de l'humanité. Donc il a travaillé là-dessus à travers son institut là.
Et le transhumanisme viendrait résoudre ça?
Exactement, ce serait
C'est bien mieux, j'ai pas pensé, mais on pourrait penser ça comme ça. Transhumanisme serait une réponse à ces risques-là, mais il y a aussi des risques qui émanent. Bon, on va pas développer, mais notamment la notion d'IA et de singularité, on en reparlera.
Alors aujourd'hui, il y a des organisations transhumanistes quand même partout dans le monde, même si on en a parlé beaucoup des États-Unis. Mais deux pays se distinguent, la Corée du Sud et l'Australie, où des militants se revendiquent ouvertement transhumanistes. En Europe, on a Stefan Lorenz Sorkner, qui est un philosophe allemand, qui développe un transhumanisme inspiré de Nietzsche. Pour lui, le post-humain n'est rien d'autre qu'une figure contemporaine du surhomme.
Tarte à la crème nietzschéenne peut tout à fait s'adapter à cette vision.
Ah oui, tout à fait. Alors, transhumanisme, c'est pas qu'un réseau de militants, c'est aussi une doctrine. Formulée dans plusieurs manifestes successifs. Le plus influent, publié en 98, puis réécrit en 2002 et 2009, affirme une conviction forte. La technologie peut transformer en profondeur la condition humaine.
C'est quel ouvrage, Jean-François?
C'est plusieurs manifestes, qui ont été rédigés du transhumanisme.
Le point commun de ces manifestes.
Donc le point commun, c'est justement mettre fin au vieillissement, accroître l'intelligence, sortir de l'homme de la Terre. Telles sont donc les promesses de demain pour ces transhumanistes. Les manifestes y plaident donc pour le droit de chacun à recourir librement aux technologies d'augmentation. Ils insistent sur le principe de neutralité politique. Le transhumanisme n'est ni de gauche ni de droite, officiellement.
C'est drôle. On y reviendra.
Cependant, il y a une nuance quand même qui apparaît. Et il faut veiller à prévenir les mauvais usages des technologies qui pourraient menacer la dignité humaine. Alors, les transhumanistes aussi, ils revendiquent des filiations prestigieuses. Par exemple, ils citent l'épopée de Gilgamesh et sa quête d'immortalité. Prométhée, qui vole le feu également aux dieux pour le donner aux humains. Dédale, qui est l'inventeur des fameuses ailes qui seront fatales à son fils Icare.
Pour sortir du labyrinthe dans lequel ils étaient enfermés,
sur l'île.
Il y a les alchimistes du Moyen-Âge aussi et de la Renaissance qui sont en quête d'immortalité Francis Bacon qui fait de la science et de l'expérimentation la clé du progrès de l'humanité, ou encore Condorcet, Benjamin Franklin, etc.
Non, mais c'est vrai que c'est issu d'interrogations aussi anciennes que les hommes, que les êtres humains.
Et tous donc auraient poursuivi à leur manière le rêve de vaincre les limites humaines. Le transhumanisme se veut aussi l'héritier des Lumières, de leur foi dans la raison et dans le progrès.
Donc la notion de progrès, c'est à travers ça que cette celle qui tire la pelote et qui disent on est lié aux Lumières.
Alors après, quand on lit un peu les Lumières, on peut quand même se dire que c'est très capillotracté.
Cette filiation, comme tu dis, elle est contestée parce que les Lumières, ils pensaient la perfectibilité d'abord sur le plan moral et social,
bien entendu,
non biologique. D'autres pensent que le transhumanisme transhumanisme s'inscrit davantage dans le positivisme d'Auguste Comte, par exemple, ou dans les dérives eugénistes du XXe siècle.
Oui.
Voilà. On a Julian Huxley, également biologiste et premier directeur de l'UNESCO, qui va jouer un rôle majeur. En 1951, il parle de transhumanisme comme d'un prolongement de la théorie de l'évolution. Mmh. Il ne s'agit plus pour lui de subir l'évolution, mais de la piloter.
Ouais,
l'homme,
ouais,
selon lui,
tout à
devient
fait.
Acteur de son propre transformation. Pardon.
C'est quand même presque paradoxal, puisque le principe de l'évolution, c'est quand même...
C'est ça. Alors, autre inspiration, c'est le cosmisme russe. Alors, le cosmisme, c'est quoi, vous allez me dire, hein? C'est un courant de pensée à caractère religieux et philosophique qui est apparu en Russie à la fin du 19e siècle. Selon la thèse fondamentale de ce courant, les aspirations idéales de l'humanité, y compris la quête d'immortalité, ne se réaliseront ni par des transformations sociales, ni par un développement spirituel de l'individu, mais par l'expansion de l'homme dans l'univers, en vue de le transformer, puis de le transfigurer.
Ah oui, mais là, clairement, on est vraiment dans un fondement très très proche, cette fois-ci, du transhumanisme.
Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, leur pensée, quand même, reste profondément spirituelle et tournée vers le salut collectif, plus que vers l'augmentation individuelle. Enfin, le transhumanisme...
Sauvons-nous de la planète toute pourrie, allons pourrir le reste.
Le transhumanisme est aussi imprégné d'imaginaire, bien sûr. Hein. Il puise dans la science-fiction, par exemple.
J'en reparlerai, tout à fait.
Ouais, Star Trek, Black Mirror, Frankenstein, Blade Runner. Bon, des œuvres optimistes qui nourrissent l'espoir d'un avenir technologique radieux.
Ouais, enfin,
Frankenstein,
par exemple. Frankenstein, Blade Runner, il y a quand même matière à faire des zones de gris et non pas du noir et blanc, je trouve.
Mais en tout cas, il y a des dystopies qui mettent en garde contre les dérives que serait la perte d'identité, la domination des machines et la disparition de l'humain, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Enfin, parmi les promesses transhumanistes, il y a l'immortalité, qui est sans doute la plus vertigineuse.
Grande obsession.
Ouais. Par exemple, en 2013, Google, qui crée la société Calico, avec un slogan frappant, résoudre la mort.
Ouais.
Pour ses fondateurs, la mort est une maladie.
Voilà.
Or, toute maladie peut un jour être guérie.
Puis il y a un peu la pensée d'ingénieur, résoudre la mort, c'est un problème,
c'est
on est ingénieur, on va régler le problème.
On va réussir à régler le problème, ouais. Alors, ce point de vue s'appuie sur des observations biologiques. Certaines espèces animales, par exemple, comme les homards ou les éponges, semblent capables de se régénérer indéfiniment. Et chez l'humain, les avancées dans la génétique, la thérapie cellulaire ou la médecine personnalisée permettent déjà de prolonger la vie de manière significative. Mais cela pose de redoutables problèmes, hein, car on risque d'aller vers une médecine à deux vitesses, réservée à une élite, ou vers une explosion démographique ingérable.
On aura l'occasion de reparler de ça aussi.
Alors, le rêve d'immortalité prend aussi des formes radicales, la cryonie par exemple, qui est...
On dit cryonie ou cryogénie ?
On dit les deux, on peut
le dire. On dit les deux, voilà. Peut-être expliquer ce que c'est.
C'est congeler un corps, en fait, ou un cerveau dans l'azote liquide, dans l'attente d'un futur où on saura le réveiller.
Le réveiller, puis résoudre les problèmes qu'il a, soit un cancer, un vieillissement, ou je ne sais quoi.
Alors, il y a déjà quand même trois entreprises aujourd'hui qui proposent ce service.
Aux États-Unis, j'imagine.
Cryonic Institute, tout à fait, et Cryorus. Quelques centaines de personnes y sont concernées.
Tout à fait.
Alors, autre piste, il y a le mind uploading ou téléchargement de la conscience. Il s'agirait de transférer le contenu d'un cerveau dans
télécharger.
Une machine.
Voilà.
Il y a un film avec Johnny Depp là-dessus, mais j'ai perdu le titre.
C'est fort possible.
Comment tu dis ?
Renaissance, peut-être.
Je ne sais plus.
Donc, c'est l'ambition de l'entrepreneur ici, Dmitri Itskov, qui a fondé en 2011 la 2045 Initiative. Je dis en français, c'est plus simple.
Ouais.
Il prévoit que d'ici donc 2045, l'on pourra créer un corps holographique piloté par un esprit numérisé. Voilà, rien que ça.
Ok.
Bon, ici, la science rejoint la métaphysique. Hein. Peut-on vraiment copier une conscience ? Est-ce encore un humain, une personne ou simplement une simulation ?
Là aussi, on reparlera de ça.
Ah, voilà.
Ouais.
Alors, il y a des écrivains aussi qui ont parlé de tout ça, comme Borges dans sa nouvelle L'Immortel, qui a montré que l'immortalité pouvait être une malédiction. L'absence de fin annule le sens.
Ah, c'est pas un libertarien, lui.
Sans la mort, il n'y a vraiment pas de hiérarchie, finalement. Pas de choix urgent, pas d'amour véritable. Et donc,
En gros, c'est un adulte.
Vous
savez que la série très rigolote The Good Place pose vraiment cette question-là.
Je ne connais pas, mais oui, effectivement.
C'est très drôle.
Ouais, la vie après la mort et tout ça, quoi. En gros, c'est ça.
Donc, à tout cela, les transhumanistes, ils verront prendre que leur objectif, c'est pas l'immortalité absolue, mais une vie longue et pleine.
Voilà.
Ce n'est pas la mort qui donne un sens à la vie, mais l'altérité.
C'est rallonger le plus possible, en gros.
C'est
ce qu'ils disent.
Exactement. Alors, pour conclure cette première partie, on peut dire que le transhumanisme fascine autant qu'il inquiète. Il dessine un monde où la vieillesse, la souffrance, la mort elle-même ne seraient plus des fatalités. Mais à quel prix ? Qui y aura accès? Que restera-t-il de l'humain dans cet post-humain? Sommes-nous vraiment en train de réaliser le rêve prométhéen de puissance ou de répéter des erreurs d'Icare brûlées pour avoir voulu trop se rapprocher du soleil? Donc entre science-fiction, utopie, dystopie, le transhumanisme nous confronte à cette question fondamentale. Qu'allons-nous faire de notre pouvoir technologique et surtout, jusqu'où voulons-nous rester humains?
Alors ok, donc ça c'était une première présentation générale, voilà, histoire de poser le décor, et puis après on va creuser un peu certains aspects. On ne va pas creuser tous les aspects parce qu'il faudra une émission de 3 heures ou 4 heures, mais on a fait des choix, hein, d'axes que l'on va développer, et ça on le fera dans les parties suivantes. Mais avant, si tu le veux bien Jean-François, on se fait une petite pause musicale.
Allez, c'est parti.
Vous écoutez Couleur du Monde sur Caladma Radio. L'émission de ce mois est consacrée au transhumanisme et nous venons sur cette première pause musicale d'écouter Radiohead, le fameux groupe légendaire, avec son morceau Paranoid Android qui est sur l'album OK Computer, un album légendaire.
Exactement, superbe album.
Qui parle un petit peu quand même de toutes ces questions-là, mais bon, voilà, sans trop rentrer dans le détail. Nous venons d'avoir donc précédemment une présentation générale de ce qu'est le transhumanisme par l'ami Jean-François. Et donc, on va passer à une deuxième partie. Et devinez quoi ? C'est moi qui m'en occupe.
C'est parti, Patrick.
Dans cette deuxième partie, en fait, je vais vous expliquer que le transhumanisme est l'héritage de plusieurs imaginaires. Et je vais commencer par un premier imaginaire, celui de la science-fiction que Jean-François a évoqué tout à l'heure. Alors, je vais aller très rapidement. Hein. En gros, je vais expliquer, je vais piocher dans ce vaste monde qu'est la SF, quatre moments. Où on voit vraiment le lien entre les problématiques du transhumanisme et la SF. Donc la première, c'est la grande période fin 19e, Jules Verne, la science-fiction scientifique positive sur les améliorations extraordinaires que la science et l'industrie nous apportent. On peut penser au Nautilus dans 20 milieux sous les mers, etc. Mm-hmm. Donc vraiment, premier moment où on voit la technique va changer le monde. Donc un point très fort du transhumanisme. Deuxième période, on passe aux États-Unis dans les années 20, 30, 40, et il y a tout un tas de revues qui sortent, on les appelle des pulps. C'est des revues populaires de bande dessinée, consacrées à la science-fiction. Alors les revues les plus connues s'appelaient Amazing Stories et Astounding Stories.
D'accord.
Et c'était des histoires de science-fiction qui présentaient une vision idéalisée du futur. Et là encore, la technologie améliorait la condition de l'homme, permettait à l'homme d'aller dans l'espace. On peut citer Hugo Gernsback, qui est le fondateur de Astounding Stories, qui parlait de la notion d'émerveillement technologique.
D'accord.
Donc là aussi, un lien très fort avec le transhumanisme dans son côté positif et le développement par la technologie.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Pour l'instant, on est plutôt dans des aspects très positifs.
Totalement, totalement. Troisième période, on avance dans le temps, on passe dans les années 70 et 80. Et là, il y a un nouveau thème qui apparaît dans la science-fiction, que vous connaissez, parce que c'est notre culture,
c'est
le cyborg, l'apparition du cyborg. Cyborg, un individu humain, mais pourvu de prothèses qui vont augmenter ses capacités. Mm-hmm. On peut citer un roman en 76 de Frédéric Pohl, un auteur de science-fiction très connu, qui s'appelle Man Plus, qui présente exactement cette thématique. Et dans ce roman, on voit les deux philosophies de la question du cyborg. Cyborg a visé thérapeutique pour remplacer ce qui a été perdu. On se souvient de la vieille série L'homme qui valait 3 milliards, Steve Austin, qui avait perdu un bras et deux jambes ou quelque chose comme ça. Ben voilà, c'était un cyborg, Steve Austin. Deuxième vision, mais c'est toujours un peu des deux en fait. L'ajout de prothèses pour augmenter les capacités humaines. Et Steve Austin, c'est exactement ça. Nouvelles prothèses a augmenté ses capacités humaines.
D'accord.
Donc ce terme de cyborg qui apparaît dans les années 70-80. Et la dernière période de SF que je veux évoquer, c'est la plus présente dans le discours des transhumanistes, parce que c'est la plus proche de leur vécu. Hein. Je parlais de ma génération, donc voilà. C'est à partir des années 80-90, tout l'imaginaire du mouvement cyberpunk. C'est les premiers romans de science-fiction qui imaginent un monde virtuel.
Ouais.
Et là, ils préfigurent Internet, ils préfigurent la réalité virtuelle. Et on peut citer deux auteurs majeurs de ce mouvement-là, cyberpunk. Il y a William Gibson et Bruce Sterling, qui ensemble ont écrit en 90 un roman qui s'appelle « La machine à différence ». Peut-être le plus connu, c'est celui de William Gibson, c'est Neuromancien, paru en 85.
Oui.
C'est sans doute le plus connu du mouvement transhumaniste. Mais là, par contre, il y a vraiment quelque chose qui est à noter. C'est-à-dire que la philosophie du mouvement cyberpunk à travers ses auteurs, c'était une philosophie extrêmement critique, qui mettait en avant l'augmentation des inégalités sociales très fortes entre les connectés et les autres, la création de sociétés très inégalitaires, de sociétés parallèles, élitistes, très inégalitaires, et le rejet massif de cette société par les jeunes, par une partie des jeunes, les punks, cyberpunk.
Et donc,
on voit que les transhumanistes ont complètement repris le cyberpunk en trahissant totalement le message du cyberpunk, puisque eux, ils sont du côté des multinationales,
du
capitalisme technologique.
Et ils occultent complètement tous les aspects très négatifs
Et très critiques du mouvement cyberpunk. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'imaginaire tiré de la science-fiction.
Galade.
Les couleurs du monde.
Et donc, on va passer à un deuxième imaginaire qui nourrit le mouvement transhumaniste, c'est l'imaginaire de la Silicon Valley. c'est-à-dire le lieu où existe toute cette industrie du numérique, les GAFAM et compagnie, qu'on appelle la tech en général. Je vais résumer en parlant de la tech, c'est ce monde-là. Secteur des technologies numériques et digitales, situé donc principalement dans la Silicon Valley en Californie. L'idée de base dans la tech, dans la Silicon Valley, c'est que le futur doit être anticipé et que la technologie est là pour réaliser de véritables miracles, pour porter nos facultés fondamentales à des niveaux supérieurs. Et donc, il y a toute un tas d'injonctions dans la tech à la positivité. Il faut être positif, il faut être proactif. On est sur du construisons, faisons, préparons, soyons, créons.
Mais on est complètement dans des injonctions sociales qui nous sont faites à tous d'être cette espèce de perfection. On ne doit pas échouer, on ne doit pas être mal, on ne doit pas se sentir fatigué.
Ce qu'ils apportent en plus, c'est une forme de technomessianisme, une sorte de religion implicite du progrès. Voilà. Ouais. Et on peut, si on détaille un peu sur l'imaginaire de la tech, dire qu'il y a trois courants qui dominent. Alors, il y en a un, on l'a déjà évoqué, mais j'en parlerai plus tard, c'est le libertarisme. Oui. D'accord ? Et puis, il y a le transhumanisme, donc, et le long-termisme, qui est une sorte de continuation du transhumanisme. Alors, le transhumanisme selon la tech, là, je veux évoquer un ouvrage d'information que j'ai tiré d'un ouvrage d'Olivier Alexandre, qui est un sociologue qui a fait un énorme bouquin sur la Silicon Valley, qu'il appelle la tech. Et vraiment, il nous dit deux, trois choses dans son chapitre 4 sur cette philosophie du transhumanisme dans la tech. Alors, il nous parle du fameux Extrop Institute qui a été fondé par Max Moore entre 1991 et 2006, avec cette notion d'extropie. Alors, il nous cite les cinq principes du mouvement extropien. Je vous rappelle que l'extropie, c'est le contraire de l'entropie. Oui. C'est l'idée d'une expansion sans limite par opposition au concept de dégénérescence, dégénérescence et de mort inévitable de tout système. Oui. Ça, c'est l'entropie. Selon Olivier Alexandre, les cinq principes du mouvement extropien, c'est donc 1. L'expansion sans limite, on vient de le dire, y compris à travers les étoiles. 2. La transformation de soi, d'accord, mais transformation physique, biologique également. 3. L'optimisme dynamique, on retrouve cette idéologie de la tech, toujours positif. 4. La technologie intelligente, l'idée qu'on va se baser sur les technologies pour réaliser ses rêves. Et 5. L'ordre spontané. Et là, on reviendra sur cette histoire d'ordre spontané avec l'ami Darwin qui est caché derrière.
Et est-ce que juste tu peux dire deux mots un peu plus sur l'optimisme dynamique qui ne me semblait pas tout à fait clair?
Ben, c'est l'idée qu'il faut être sur des attentes positives, il faut avoir un optimisme rationnel, être dans l'action, être proactif, comme je le disais tout à l'heure, dans la volonté de transformer les êtres
d'accord.
humains.
D'accord. Oui, on est toujours dans ces injonctions, mais qui nous sont faites actuellement. Ok, je vois bien.
Totalement. Dans la tech, le transhumanisme et les projets transhumanistes sont permanents et sont très nombreux. On peut citer chez Google le fait qu'en décembre 2012, ils ont embauché Ray Kurzweil, le fameux chercheur qui a formulé la théorie de la singularité, qui est l'idée qu'en fait, la singularité, c'est quand une intelligence artificielle atteindra un niveau d'intelligence supérieur aux humains, et un niveau de conscience surtout, et avec tous les fantasmes de la SF derrière, ils voudront se débarrasser des humains.
Qu'est-ce qu'on appelle conscience sur l'IA? C'est quand même
une très bonne question, je te remercie de me la reposer. Parce que c'est l'objet de débat sans fin. Donc je ne répondrai pas à ta question.
Bon, enfin, Patrick.
Bon, après, il y a plein de choses. En 2013, on a... Je crois que tu l'as cité. Non, c'est pas celle-ci que tu as cité. Kaloo, c'est une start-up biotech qui a pour but de lutter contre le vieillissement humain. Mais enfin, il y en a plein, des comme ça. Donc, il y a une vraie hégémonie intellectuelle dans la tech, dans la Silicon Valley, des mouvements libertariens et transhumanistes. Libertariens, on y reviendra. Le long-termisme, je l'avais cité, donc c'est une extension du transhumanisme. C'est l'idée de travailler sur le potentiel humain. Et là, on retrouve Nick Bockstrom, que tu avais évoqué tout à l'heure, Jean-François. On trouve aussi un philosophe qui s'appelle William McCaskill, qui a travaillé aussi sur un peu les mêmes problématiques que Nick Bockstrom, c'est-à-dire tous les problèmes que qui risque d'amener la disparition de l'espèce humaine, et qui a fondé un mouvement qui s'appelle l'altruisme efficace. Mouvement qui consiste à dire il faut être altruiste mais être efficace. Donc ça veut dire, en gros, sous-entendu, c'est les milliardaires qui sont efficaces, donc vive la philanthropie. Ouais.
Et les autres, on s'en fout.
Confiant plutôt qu'aux États, confiant plutôt aux milliardaires l'avenir humain. Vous voyez un peu ce qui se cache derrière en termes de vision politique.
Pour résumer, la philosophie de ce long-termisme, c'est de se dire, en fait, on donne une vision au transhumanisme. C'est-à-dire, le transhumanisme va permettre à l'humain de continuer
Penser le devenir de long terme de l'espèce humaine à travers travers le transhumanisme, c'est lui qui va nous okay. permettre de gérer cette évolution de long terme et d'éviter les pièges de la disparition potentielle de l'humanité.
En fait, ça justifie finalement, c'est une manière de s'auto-justifier totalement, en quelque sorte.
Totalement, tu as tout compris. Voilà pour ce qui est donc le deuxième imaginaire, deuxième héritage du transhumanisme.
Galade. Les couleurs du monde.
Et donc, je vous parle maintenant d'un troisième héritage qui est, lui, beaucoup plus discret. Il faut vraiment aller fouiner pour le repérer. C'est l'héritage du protestantisme.
Ah oui, tu peux nous expliquer
ouais,
ça.
C'est plus étonnant. Et là, je fais intervenir un autre acteur, un Français. C'est lui qui a repéré ça. C'est Alain Damasio.
On l'aime bien, Alain Damasio.
Il m'avait fait une chronique sur la Horde du Contrevent avec Béranger il y a quelques semaines. Il a écrit un livre enquête qui s'appelle Vallée du Silicium, qui est sorti en 2024, qui n'est rien d'autre qu'une enquête sur la Silicon Valley. Il a voulu l'analyser d'un point de vue anthropologique. Et je vais citer Alain Damasio, une citation. Il nous dit « Leur conception de l'avenir, celle des gens de la Silicon Valley, c'est un monde où on continue de considérer que la technologie est une forme de libération et d'émancipation de l'humain et qu'il n'y a aucune raison de ne pas continuer à outiller nos paresses. » Et là, j'adore
c'est
la fin de sa citation.
«
Outiller nos paresses ». Évidemment, outiller, il pense aux startups, aux smartphones, les objets connectés, etc. Mais derrière ça, il y a un point très important qu'Alain Damasio a repéré dans son analyse, dans son enquête dans la Silicon Valley. C'est la question du corps humain. Oui. Et il nous dit, pour les gens de la tech, le corps humain, c'est de la viande, c'est une chair morte. La seule chose qui compte, c'est le cerveau et le système nerveux.
Bien sûr.
Et donc, le corps n'est intéressant que parce qu'il doit être en forme pour nourrir le cerveau. Et
d'accord.
c'est tout. D'accord. On peut faire référence à un manga, Ghost in the Shell, qui est un peu cette philosophie. Et donc, la vision du corps, selon Alain Damasio, qui émane de la tech, c'est un corps qui n'est pas investi. D'accord, il est uniquement investi dans une logique d'optimisation, mais il n'est pas investi sur un plan sensuel, on pourrait dire. Il est désinvesti même.
Finalement, on voudrait se désincarner.
Exactement, on y vient, c'est ce qui va venir à la fin de ma petite démonstration. Alain Damasio, il nous cite l'exemple du clip de présentation qu'a fait Apple il y a genre 2 ans, de leur casque de réalité virtuelle Vision Pro, qui a fait un beat de monumental, pour info. On y voit quoi ? On y voit des humains, mais on y voit des corps avec le casque sur les yeux, avachis dans des canapés, ou debout, mais qui ne bougent pas, qui sont complètement immobiles. Bref, c'est des morceaux de viande qu'il faut maintenir à 20 degrés, quoi, en état de fonctionnement.
Et ça fait tellement rêver.
Et Damasio, il dit, mais même, c'est parce que c'est ce morceau de viande qui est désinvesti qu'il faut le connecter à outrance à des objets divers pour le contrôler, l'optimiser. D'accord ? Mais comme tu l'as finement compris, Emma, tout ça, c'est lié à l'imaginaire ultime, c'est-à-dire le grand projet de l'immortalité, un grand projet du transhumanisme, avec ce qu'a dit Jean-François, c'est-à-dire l'idée que l'immortalité, ça pourrait in fine passer par le téléchargement de la conscience humaine dans un ordinateur, et comme ça, on n'est plus emmerdé avec les maladies et le vieillissement. Et le corps, on n'en a plus besoin, on en est débarrassé. Donc derrière, le lien avec le protestantisme, je pense que l'ai compris. Il suffit de regarder un peu l'œuvre de Ingmar Bergman, par exemple. Le rapport au corps est quand même assez complexe et assez. j'allais dire qu'on.
Oui, le corps, c'est le mal.
Voilà, c'est le mal. Voilà, disons les choses franchement. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, quelque part, ils oublient, tous ces braves gens, de consulter les spécialistes du cerveau, les neurologues,
évidemment.
Tous ceux qui ont étudié le cerveau ces 30 dernières années, et comme, comment il s'appelle, j'en ai un en tête, j'ai oublié son nom, un Italien, je ne me souviens plus, bref, ce n'est pas grave. Ils nous disent quoi ? Ils nous disent, les processus cognitifs sont tous enracinés dans le corps, dans nos états
bien
corporels,
évidemment.
Dans nos états émotionnels. Donc, imaginez transférer une conscience sans corps, ça change complètement la donne. Voilà, j'en ai terminé.
Ça ne fonctionne pas, je pense.
Avec cette deuxième partie qui était donc l'héritage des imaginaires qui nourrissent le transhumanisme.
On va se faire une petite pause musicale alors.
Mais quelle bonne idée.
Allez, c'est parti.
By 2045, we'll have expanded the intelligence of our human-machine civilization a billionfold. That will be a singularity. We borrowed this metaphor from physics to talk about an event horizon that's hard to see beyond.
I don't got the answers, man. I just know everything's gonna be different. The creator has a master plan to make a breed of half a man and a half machine. Yeah, that's the dream. And it's not as impossible as it may seem. In fact, it's quite logical. when intelligent elements are non-biological nanobots the size of a molecule. We'll make a map out of our neurological structures, forming a cluster of networks to do our mental legwork, taking out all the guesswork according to experts. But if we obey what they say like a sweatshirt, then in the end we'll do our best work. Will me and you disappear in the gray goo? Flunk control replicators ready to slay you. Everything is gonna be different. Nothing will stay the same. If we are no longer human, what will remain?
I will destroy you.
That's the question. Is the next step in our progression to become one with the art of lexing? Expand our intelligence beyond perception? Or is this reality only a fallacy? A form of science fiction that's existing in galaxies? Answer to the question is beyond my capacity. But man, hope you understand the gravity of the situation, cause we're facing a catastrophe. Our own annihilation, billions of casualties. And I ain't saying it's an individuality. I'm only conveying a message in rhapsody. Cause you know a fallacy, plus singularity, as a cure to our malady. But I'm not so sure, cause I cannot ignore the fact that we are the program.
Do you wanna live forever, or do you wanna die together? You must decide now or never, but it's just a choice for beggars. Do you wanna live forever, or do you wanna die together?
Harness all of human knowledge with a few keystrokes. It can remember billions of things accurately. They can share knowledge at electronic speeds that are a million times faster than human language. So it'll be a very powerful combination.
Are we the slaves or the masters? Can we be saved from disaster? Are we the slaves or the masters? Will we be saved from disaster?
There are dangers.
That's the question. That's the question. Yeah, yo, that's the question. That's the question.
Vous écoutez votre émission mensuelle Couleur du Monde qui a pour thème ce mois-ci le transhumanisme. Et on vient d'écouter, alors prenez note hein, parce qu'ils ne sont pas très connus, un groupe de musiciens allemands qui s'appelle The Mung Beings, M-U-N-G, plus loin Beings, B-E-I-N-G-S. Et c'est un rap qui s'appelle Transhuman et les paroles parlent de transhumanisme. C'est très chouette. J'essaierai de trouver un lien sur le podcast pour que vous puissiez regarder ça de plus près. Alors, on va continuer. On a déjà vu donc une présentation globale de ce qu'est le transhumanisme par Jean-François. Ensuite, j'ai parlé des divers héritages du transhumanisme, la tech, la Silicon Valley, la science-fiction, le protestantisme. Maintenant, on va venir sur ce fameux libertarisme, depuis le temps qu'on tease un peu ça. Et c'est Emma qui va nous en parler. Le transhumanisme a partie liée avec le libertarisme. Explique-nous ça, Emma.
Tout à fait. Alors, je vais vous expliquer. Bon, déjà, je vous rappelle quand même que Patrick a fait quelques chroniques très intéressantes sur... le libertarisme.
Oui, exact.
Et les libertariens, voilà.
Ouais,
n'hésitez pas à écouter les
chroniques
du prof Patrick.
Mais c'était le libertarisme
autoritaire,
donc ça spoil un peu déjà
c'est vrai.
Certains
bon,
aspects
pardon,
du libertarisme.
Pardon. Alors vous écouterez après, et puis comme ça vous ferez votre idée. Bon, on va revenir sur ce fameux fondateur du mouvement, Max Moore, dont tu nous as parlé, ouais. Jean-François. Il insiste, lui, sur la liberté absolue des individus à choisir leur propre vie et même, du coup, leur propre corps.
Voilà, sous-entendu sans entrave.
Tout à fait. Donc, il parle de liberté morphologique et pour lui, c'est vraiment une revendication de base. Et c'est vraiment la revendication des transhumanismes. Et en même temps, c'est quand même un point majeur de la controverse qui a lieu et qui a lieu actuellement, hein, puisqu'elle implique en fait le droit aux manipulations génétiques,
ouais.
Pour lesquelles on se pose quand même de sérieuses questions
et
éthiques,
y a des
bien entendu, et pour lesquelles il y a encore des réglementations. L'utilisation de psychotropes, de produits dopants, d'implants également, y compris les implants cérébraux. Pour eux, tout ça, ça doit être free. Voilà, ça doit
exactement.
Être
ouais. Aucune entrave.
Tout à libre. Fait, ouais. Tout à fait libre. Et même les techno-progressistes, hein, ceux qui font quand même attention aux dérives.
Les sociodémocrates, comme j'ai expliqué.
Voilà, c'est ça, les sociodémocrates de la technique. Eux-mêmes insistent sur vraiment le respect à une liberté individuelle totale. C'est vraiment l'idéologie.
Donc on a ce socle qui est l'exigence de liberté absolue.
Tout
et c'est
fait.
Ça le lien avec les libertariens.
En fait, le problème, l'idée des libertariens, c'est que l'État est liberticide. L'État, en fait, doit simplement garantir le droit, la propriété privée. Mmh. Et c'est tout, rien d'autre. Vraiment, pour eux, la société doit uniquement exister à travers le prisme des individus qui se définissent finalement par eux-mêmes et qui sont capables de rechercher leur propre bonheur. Et donc, on ne doit pas les entraver. Hein, donc, toutes les fonctions régaliennes, l'éducation, la création des infrastructures, on doit...
Police,
les...
défense, voilà, armée.
Tout ça.
Police, défense, justice.
Ouais. Et l'école également, hein, on doit les ôter des mains de l'État. Et
ouais,
tout cela
totalement.
Doit être privatisé.
Ouais.
Hein. Pour eux, il est absolument nécessaire que l'État disparaisse
pratiquement. Hein. C'est l'ambition des libertariens, de faire disparaître l'État.
Voilà. Quelles qu'en soient par ailleurs les conséquences. Alors, les conséquences dont on pourra parler un peu plus tard. Concernant les libertés démocratiques, hein, pour les libertariens, en fait, les libertés sont secondaires. Ce qui est prioritaire, ce qui prime, c'est la liberté. La liberté de posséder et d'accumuler.
Liberté de propriété. Et
tout
là,
à
on
fait.
Dit, ah, mais ils sont vraiment raccord avec le capitalisme.
Hein, mais,
liberté
et
de
alors,
propriété.
Devinez donc qui se réclame
produire,
du libertarisme. Eh bien, Elon Musk, Peter Thiel,
ouais.
dont Patrick va nous parler tout à l'heure en quatrième
PayPal,
partie,
ouais,
Jeff Bezos, Jimmy Wells,
Amazon,
voilà, qui a
Jimmy
créé
Wells,
Wikipédia.
Donc, un tas de milliardaires américains
tout
sont
à
libertariens.
Fait. Et ces milliardaires qui sont très portés sur le web, hein, voilà, qui,
beaucoup,
pour
ouais.
lequel finalement cet espace va leur permettre d'avoir une visibilité et puis de se faire de l'argent aussi. Hein.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Alors, pour finir sur cette première sous-partie, à la fin des années 90, il y a une cyberactiviste qui s'appelle Paulina Borsuk qui explique que pour les riches entrepreneurs libertariens de la Silicon Valley, finalement, ils sont tous caractérisés, d'après elle, par un manque d'empathie, tiens donc, c'est étonnant, par la volonté de dépasser les frontières de l'esprit et du corps, quelles qu'en soient finalement les conséquences.
Et on voit bien ce mix entre donc libertarisme et transhumanisme.
Tout à fait.
Galade.
Les couleurs du monde.
Vous vous en doutez, du coup, c'est une vision tout de même très élitiste
oui,
du monde
peu.
À laquelle nous sommes en train de faire allusion. Il y a un auteur américain qui, justement, va permettre de faire le lien entre la partie précédente et celle-ci sur l'élitisme. C'est Ayn Rand, avec un roman très connu, qui est, Patrick le disait, la Bible des
ouais,
libertariens.
C'est vraiment la Bible des libertariens.
C'est La Grève.
Ouais,
qui est
roman,
paru
ouais.
en 1957.
Okay.
Donc, c'est un roman de science-fiction qui présente une forte critique des États et de la décision de ce qu'elle appelle les hommes d'esprit, donc les élites, de faire sécession, de disparaître en mode « Ok, débrouillez-vous sans nous ». Et finalement, en fait, on a l'idéal type qui est la représentation des élites et le peuple-vil qui qu'on va laisser finalement crever dans son
Donc,
coin. Hein.
Ouais, à la base du libertarisme et aussi du transhumanisme, même s'ils le disent pas très fort, c'est vraiment cette conviction que le monde dépend d'une petite élite,
tout à
et
fait.
Doit donc être dirigé par une petite élite, et que le reste, c'est la
C'est ça.
La
et c'est ces élites-là qui voilà. vont accéder à l'augmentation.
Bien
hein.
sûr.
Les autres, évidemment,
n'y accèdent
pas. C'est pas
mais c'est exactement ça. La vraie clé cachée du transhumanisme, c'est que c'est réservé à une petite élite, en fait.
Et cette élite, eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, elle ne me fait pas trop rêver. Alors, voilà une citation de Noah Yuval Hariri, donc, qui est un vulgarisateur scientifique.
Qui a écrit des bouquins célèbres, Homo sapiens, Homo Deus, etc.
Ouais.
Des best-sellers énormes vendus dans le monde entier.
Tout à fait. Eh bien, écoutez ce qu'il dit. Il dit « Il y aura une petite élite privilégiée d'humains augmentés. Ces surhommes jouiront de capacités inouïes et d'une créativité sans précédent. » Ce qui leur permettra de continuer à prendre les décisions les plus importantes du monde. Mais la plupart des humains ne seront pas augmentés et formeront donc une caste inférieure, doublement dominée par les algorithmes informatiques et par ces nouveaux surhommes.
Alors, faut bien comprendre que Yuval Noval... j'arrive jamais à dire son nom.
Alors, Noah Yuval Harari.
Excusez-moi, mon cher Harari. Il n'est pas du tout dans la glorification de cette vision, hein, d'accord ?
Il est au contraire
dans l'idée de critiquer et de prévenir du danger de cette vision du monde-là.
Tout à fait.
C'est important de le signaler.
Et cette vision du monde, on va en parler sur l'autre point de vue, celui qui la défend.
Du côté du transhumanisme qui défend cette vision.
À savoir Laurent Alexandre, qui est l'ancien fondateur de Doctissimo.
Donc là, on revient
en
France.
Tout à fait un transhumaniste et qui, à l'école Polytechnique en 2019, affirme ceci.
Il a fait une conférence à Polytechnique.
Voilà.
Polytechnique, c'est vraiment l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de France. C'est le top du top des élites françaises. Il faut comprendre
tout
ça.
Tout à fait.
Hein, d'accord ? C'est la formation des élites françaises.
Et ce qu'il leur dit, hein, son propos, c'est que dans notre chemin vers 2050, il va émerger sur ce chemin une classe d'humains inutiles. C'est la classe, en gros, des gilets jaunes. Hein.
Oui, parce que cette conférence date de 2019, c'est juste après gilets jaunes.
Tout à fait. Et donc, une classe de personnes qui, bientôt, ne sera même plus employable. Donc, qui ne servira absolument à rien.
Voilà.
Et devant ses étudiants, donc les élites français, comme tu l'as dit, il annonce la venue des IA. Et il dit que ces IA vont façonner une nouvelle intelligence au profit d'une classe supérieure, donc dont il fait partie et dont ils vont faire partie.
Donc déjà, Laurent Alexandre était très intéressé par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on est juste avant l'accélération de l'intelligence artificielle avec l'explosion des LLM. Mm-hmm. Donc quelque part, lui, il se prononce en faveur de ça. Mais je veux dire, le remplacement massif par l'IA de tout un tas de postes, de tâches répétitives, on est au début du commencement et on voit déjà que ça tabasse sévèrement.
Tout à fait.
C'est un vrai mouvement historique très fort. Mais lui, il appelle de ses voeux cette logique d'une élite qui doit émerger.
Tout à fait. Et pour lui, cette élite, elle va en fait être la combinaison de l'IA et des biotechnologies. Pourquoi ? Pour lutter contre la souffrance, la maladie, le handicap et bien sûr, comme tu l'as dit Jean-François tout à l'heure, la mort.
Donc le béaba du transhumanisme.
Tout à fait. Du coup, son message vraiment, c'est qu'il faut une élite intellectuelle pour gérer ces processus.
C'est ça, voilà.
Pour faire avancer l'humanité. On est vraiment dans une logique de promotion d'une humanité.
Et il s'adresse aux gamins étudiants de Polytechnique. Il leur dit, c'est vous les élites.
Voilà,
c'est à vous de prendre ce pouvoir. Voilà, c'est ça son message.
Tout à fait. Et du coup, il ne se préoccupe absolument pas justement des intellectuels dont on parlait tout à l'heure, comme Harari ou d'autres, qui s'inquiètent des dangers du transfert de l'autorité des hommes aux algorithmes.
Non,
pour lui, ça n'est absolument
pas
une préoccupation. Résultat des courses, en toile de fond, ce qu'il est en train de dire Laurent Alexandre et les transhumanistes avec lui, c'est qu'ils appellent vraiment de leur vœu un monde qui, par les pouvoirs confiés aux technologies numériques, est susceptible de faire ressurgir du passé une pratique un peu oubliée, mais quand même qu'on aura en tête, c'est l'eugénisme. Alors, un eugénisme 3.0, comme tu le disais, Patrick.
Ouais,
alors, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol, qui est un excellent film, vraiment, et qui pose très, très bien la question
très bonne illustration
de l'eugénisme et de ses limites aussi, qu'est-ce que ça peut
produire
comme société.
C'est toujours d'actualité.
Mais absolument.
Tout à fait.
Et donc, en fait, ça passera par pertes et profits. C'est un des fondements des démocraties libérales. Les êtres humains qui, jusque-là, étaient égaux biologiquement et socialement, c'était le contrat social de Rousseau, ne le seront plus. Et ils le souhaitent,
ils l'appellent totalement
leur vœu.
Tout à fait. Donc on voit aussi un autre aspect, outre cet élitisme, quelque part une direction qui tend à nous faire mettre aux oubliettes la démocratie.
Tout à fait. Ouais. Et alors précisément, Patrick, ça va être à toi sur cette quatrième partie de...
Oui, tout à fait. On va parler dans une quatrième partie de ça. On va creuser un peu le sujet.
Galade.
Les couleurs du monde.
Donc, auditeur de KM Radio, on est toujours sur cette émission Couleur du Monde qui parle du transhumanisme. Et on arrive à la fin maintenant. On commence à voir un petit peu ce qui a caché derrière les jolis discours du transhumanisme. Remise en cause démocratique. Ben, tiens, justement, cette dernière partie, elle affirme, hein, j'ai écrit le titre comme ça, que le transhumanisme aujourd'hui fait cause commune avec l'idéologie trumpienne. Mmh. C'est un peu là-dessus que je vais partir. Et pour ça, en fait, je vais vous parler d'un personnage que vous avez déjà cité, c'est Peter Thiel. Mmh. Peter Thiel, le fameux fondateur de PayPal, co-fondateur de PayPal, qui est devenu riche grâce à ça, fin des années 90. Un entrepreneur de la Silicon Valley, de la tech, hein, qui a des sociétés de capital risque, des fonds spéculatifs, etc. Pour info, c'est lui qui a créé la société Palantir, société célèbre qui édite des logiciels spécialisés dans l'analyse du big data.
D'accord.
Et okay. Notamment, il y a une édition de Palantir qui s'appelle Palantir Gotham, qui est un logiciel qui est utilisé par la NSA, la CIA, le FBI, l'US Air Force, les polices de Los Angeles, okay. de New York et tous les services de renseignement du monde. Logiciel de surveillance de la population. Okay. Vous comprenez un peu la philosophie ?
On voit bien.
Voilà. Alors, il a été un des premiers à soutenir Donald Trump lors de sa première candidature en 2016, alors que dans la tech, ça courait pas les rues.
Oui, c'était
rare. Il est devenu conseiller du président américain lors de la première, donc, du premier mandat. Et bien sûr, c'est un libertarien et un transhumanisme affirmé, affiché, d'accord. Alors, il est de toutes les initiatives transhumanistes. Hein. Il a soutenu l'université de la singularité qu'a créé Ray Kurzweil en 2008, hein, la fameuse notion de singularité. Ouais. Il est un des donateurs de la Methuselah Foundation. Methuselah, c'était le grand-père de Noé, qui est censé avoir vécu jusqu'à 969 ans.
D'accord.
Donc, vous comprenez que cette fondation travaille sur l'allongement de la durée de vie. Il participe avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à Unity Biotechnology, une société qui développe des biotechnologies. Bref, il est partout, en quelque sorte, dans ces thématiques transhumanistes. En 2009, il a publié, pour le compte d'un think tank libertarien qui s'appelle le Cato Institute, il a publié un texte qui s'appelle « L'éducation d'un libertarien », une sorte de profession de foi. Je lis un extrait. C'est Peter Thiel qui parle. « Je conserve mon attachement à la liberté individuelle comme condition sine qua non au bien absolu. Je m'oppose aux impôts qui confisquent, aux collectivités, au collectivisme totalitaire. » Donc là, on est bien dans les libertariens. « Et à l'idéologie qui voudrait nous faire croire que la mort est inévitable. » Et là, on est dans les transhumanistes.
«
Pour toutes ces raisons, je peux encore aujourd'hui me qualifier de libertarien, mais je dois confesser que ces 20 dernières années, écoutez bien, auditeurs de Calad Maradio, j'ai changé radicalement. Par-dessus tout, je ne crois plus que liberté individuelle et démocratie soient compatibles. Okay. » Fermé les guillemets, 2009.
C'est-à-dire qu'il l'affirme clairement. Hein.
Clairement, ouais, tout à fait. Pour Peter Thiel, vous avez l'impression, auditeur de Calad Maradio, qu'on se répète, mais bon, le monde doit être gouverné par une élite, celle des innovateurs et des esprits les plus brillants. Il plaide pour une technocratie et appelle de ses voeux la fin du politique et de la démocratie. Pour lui, c'est à Google, Facebook et compagnie
de gouverner.
Voilà,
fantastique, exactement. Une bonne dictature. Ouais. Alors, faisait longtemps, dis donc.
Il ne faut pas croire que ces idées sont minoritaires aux États-Unis. Elles sont très largement partagées, évidemment, dans la tech, mais pas que, hein, par des gens qui fondamentalement sont antidémocrates, sont hyper individualistes et sont antisociaux. D'accord. Alors, si vous voulez, pour comprendre un peu mieux son idéologie, on va revenir au moment où il était jeune étudiant à Stanford, brillante université américaine, et il animait un journal d'étudiants qui s'appelait The Stanford Review, avec son pote David O. Sachs. Et à cette époque, il y avait un vrai débat intellectuel sur la question les mesures en faveur des minorités, les discriminations positives, pour permettre aux minorités noires d'entrer plus facilement dans ces universités. Il n'est pas d'accord du tout, hein, Peter et David, pas d'accord du tout. Non.
Étonnant.
Ces prétentions sont insupportables pour eux. Ils sont héritiers de l'esprit Stanford, c'est-à-dire convaincus que seule l'excellence compte et que l'ouverture aux femmes et aux minorités ethniques fera immanquablement baisser le niveau général de l'université.
Eh oui, parce que du coup, effectivement, l'excellence, c'est ni les Noirs ni les femmes.
Exactement. Le Stanford Review, la revue étudiante, va passer son temps à se battre contre les femmes et la discrimination positive. Les femmes, par exemple, ils pourfendent le féminisme en disant c'est une idéologie alarmiste, culpabilisatrice et aveugle aux différences biologiques, je mets des guillemets, évidentes entre hommes et femmes. Là, encore une fois, on voit que ces gens-là,
ils soutiennent
des sujets qu'ils ne connaissent pas.
Comment on appelle ça, là Oui, c'est ça.
Ouais, mais on est en fin des années 80.
On est bien chez Trump.
On voit, c'est des précurseurs. Dix ans après, Peter Thiel et toujours son pote David Sachs vont publier un essai sur le même sujet. Cette échelle, elle va s'appeler, s'appelle le mythe de la diversité, multiculturalisme et intolérance politique sur les campus. Mmh. Et donc, ils préviennent, même chose, hein, que si les minorités, les femmes devenaient trop présentes sur les campus, eh ben Stanford deviendrait l'équivalent d'un pays du tiers-monde.
Fantastique.
Donc, voilà. Défense intransigeante de la liberté individuelle, refus de tout étatisme, le béaba libertarien. Donc même Elon Musk disait « Je suis une sorte de libertarien, mais Peter, lui, est extrêmement libertarien.
» Eh ben dis donc, ça fait envie, hein.
Voilà.
On a envie de le côtoyer, ce monsieur.
Et là où on pourrait être surpris de le raz-de-marée trumpien qu'il a amené au pouvoir, en fait, il faut savoir que ces 30 dernières années, Peter Thiel et ses amis de la tech, qui sont pour beaucoup très riches, voire milliardaires, ont passé leur temps à propager dans la tech et au-delà toute cette idéologie transhumaniste, libertarienne, élitiste, etc. etc. Donc, il ne faut pas réduire le trumpisme à ça, hein, d'accord,
oui, mais c'est ça en fait
une composante extrêmement importante de l'idéologie trumpienne, en quelque sorte. Voilà, on en a terminé avec cette quatrième partie, et puis quelque part, on en a terminé avec ce balayage un petit peu ciblé. Hein, on n'a pas voulu développer tout de ce qu'est le transhumanisme.
On mais, a fait plus court quand même.
Ouais, et puis en allant vers des choses qui sont un peu cachées. Hein,
ouais, moi je trouve que c'est quand même intéressant d'aller de raccrocher ça, parce que finalement, si on reste sur la SF, ça pourrait être presque sympa.
Ouais,
ça pourrait,
ouais, bien sûr,
c'est un peu sexy finalement, l'homme augmenté.
Et puis c'est toute notre culture de geek de ces 30 dernières années.
Tout à fait.
Tout de suite, mais en fait, dès qu'on creuse en dessous, en fait, ils sont plutôt du côté de l'Empire que du côté des Jedi.
C'est ça.
Si je peux me permettre.
Bah, écoute, c'est une très belle image pour terminer cette émission, Patrick.
Voilà. Auditeurs de Kélan Maradio, merci de nous avoir suivis et passez un bon été. Au revoir.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.